Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort et fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, alléluia. Il est vivant, le vivant des vivants. Il déborde de lumière. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, Pierre, Jacques et Jean, rejoignant les autres disciples, virent une immense foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite. Et les gens accouraient, couraient vers lui pour le saluer. Jésus leur demande, « Quoi discutez-vous donc avec eux ?» Un homme dans la foule, c'est lui qui répond, « Maître, je t'ai amené mon fils. » Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, le jette par terre, l'enfant écume, le reste des dents devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit-là, ils n'ont pas réussi. Jésus leur dit, génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le auprès de moi. On l'amena auprès de lui, dès qu'il voit Jésus, l'esprit secoue violemment l'enfant. Et l'enfant tombe, se roule par terre et cure. Jésus interroge le Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père répond, depuis sa toute petite enfance, souvent même il l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours, pitié pour nous. Jésus reprend, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible en faveur de celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant crie, je crois, viens au secours de mon incroyance. Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. L'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit. Et l'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, il est mort. Mais Jésus lui saisit la main, le relève et il se met debout. Quand Jésus fut rentré à la maison seul avec ses disciples, les disciples l'interrogeaient en particulier, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser? Jésus leur répond, rien ne peut faire sortir cette espèce-là sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia.
Ton évangile, Seigneur, s'inscrit dans nos âmes
et nous lave de toutes nos fautes au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Louange
à toi, alléluia.
Vous êtes sûrement tous posé la question, hein, parce qu'on a lu l'évangile cette nuit. Puisque, bon, très bien, Pierre, Jacques et Jean descendent avec ceux. Voilà. Jacques et Jean descendent. Hein, voilà. Jésus revient, c'est la part aussi. Et les disciples qui sont là sur la terre, qui arrivent à passer l'église, quoi, hein, c'est l'église. Hein. Et le méchôme est maîtrisé par Jésus qui revient dans la parousie, d'accord? C'est bien ça. Mais le père de l'enfant, c'est qui? Il y a tout le monde, on voit bien, il y a les disciples, il y a les apôtres, descendent, très bien, parfait, le père, il y a l'enfant, bon, l'enfant, c'est toute l'humanité, bien sûr, je pense, c'est, quelque part, c'est toute l'humanité qui est saisie par l'esprit sourd et muet, qui s'est glissé, qui s'est faufilé. Et puis Jésus, donc, on voit qu'il y a un délai, ça se fait pas tout de suite, c'est du temps. On scrute les Écritures, les scribes sont là avec l'Église, avec les disciples, on ne comprend pas. On scrute les Écritures, on commence à lire du coup le prophète Daniel, il était temps, il s'est passé quelque chose, la trompette a sonné, la transfiguration est derrière nous. Ouais. Est-ce que c'est le pape, hein? Vous voyez, entre l'avertissement, l'ouverture du cinquième sceau et l'ouverture du sixième sceau, il y a quand même un délai. Ça ne se fait pas tout de suite. Parce que l'humanité, bon, ben, elle est morte quand même, hein, à ce moment-là. Et puis finalement, et à un moment donné, elle se relève. C'est une résurrection. Vous avez ici le récit de la première résurrection. Puisqu'à un moment, les justes vont se relever avec les enfants qui sont morts, et ils se lèvent et ils sont emportés, ils se relèvent. Égarcissent, hein, ils se lèvent, égarcissent. C'est le mot de la résurrection. L'enfant se lève, hein, il ressuscite. C'est Origène qui aimait, Saint Augustin aussi, qui aimait prendre des évangiles pour voir ce que ça signifie, surtout pas sur le parcours de Jésus. Donc c'est sûr, oui, il revient comme fils de l'homme, c'est la transfiguration. Et de là, il y a l'évangélisation, il y a l'évangile est proclamé par toute la terre, mais il y a quand même, Jésus l'avait dit, le méchôme demeurera, hein, jusqu'à la fin. Cet esprit-là, hein, cet esprit sourd, aveugle, muet, c'est méchomique, on n'arrive pas. On ne peut pas, rien à faire, rien à faire, on ne peut pas, le Père. Il y a mille manières, mais le Père de l'enfant, pour moi, le Père de l'enfant, je ne sais pas, c'est... À combien de temps ça va durer, ça j'en sais rien, hein, parce que Isaïe le prophète dit que ceux qui vont mourir à 120 ans vont mourir très jeunes, dans cette génération-là. Donc, moi je connais quelqu'un qui a dit, je demande au Seigneur de me donner 15 ans. Si pas de chance, ça, t'en as pour 200, t'en as pour 150 peut-être. Hein. 150 supplémentaires, disons. Je sais pas combien de temps ça va durer, le temps d'une génération, quoi. Mais une génération... Une génération selon la sagesse de Dieu. Voilà, on ne sait pas, hein, entre le cinquième sceau et le sixième sceau. Le sixième sceau, c'est quoi? Le sixième sceau, c'est celle dont parle de Jésus, le Seigneur, dans l'épître aux Thessaloniciens, la deuxième aux Thessaloniciens. Et t'en parle Jésus, lui aussi, dans l'Évangile, Saint Matthieu, Saint Marc, un sera pris, l'autre laissé, c'est ça, le sixième sceau, hein. Il y en a deux qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Vous serez deux dans un lit, puis un sera pris, l'autre laissé. C'est extraordinaire ça. Voilà, il y aura Élie et Enoch. tout de même. Et tout ça aboutit quand même à cette espèce de lutte contre l'Antichrist. Et le sixième sceau, c'est quand même quelque part cette parole du Christ qui ouvre la terre et qui met fin à l'Antichrist. Alors, tant que la bête et le fils de la bête sont projetés dans le Tartare, dans l'Hadès, qui ne s'éteint jamais. Et entre-temps, il y a eu cette grande lutte de l'Église du Saint-Père, de l'Église universelle, un seul troupeau, un seul pasteur, contre l'esprit de l'Antichrist, qui est un esprit, comme disait le lecteur tout à l'heure, d'une immense subtilité. L'esprit de l'Antichrist est un esprit d'une immense subtilité, très subtil. Une subtilité comparable à la subtilité du nombre de grains de sable qu'il y a dans l'univers, hein, du nombre de gouttes d'eau dans la pluie, comme l'a lu tout à l'heure celui qui a lu la première lecture, d'une immense subtilité. Il y a une différence entre le nombre de grains de sable qu'il y a dans l'univers et le nombre de gouttes d'eau de la pluie de tous les temps. Il y a un lien entre ce nombre et l'autre nombre, et ce lien est subtil. Qui le connaît? C'est beau, il est beau ce passage, qui connaît les profondeurs de la sagesse de Dieu? Bien, cette sagesse qui connaît tout ça, cette sagesse-là est venue recouvrir toute chose, tout ce qu'il a créé, en est recouvert par cette subtilité-là. Et l'Antéchrist, comme dit saint Albert le Grand, à l'état, Saint Thérèse d'Enfant Jésus lisait ces phrases-là de Saint Albert le Grand sur l'Antéchrist. Cette subtilité-là, l'Antéchrist l'aura, quoi, dans les Écritures, dans la Révélation, dans la théologie, dans les esprits aussi, parce que l'Antéchrist ne va pas se repérer comme ça. Hein. L'Antéchrist, c'est pas, ah voilà, il vient d'Afghanistan, là-bas. Faudra pas suivre le message en disant, tiens, wow, on voit bien qu'il a des cornes. Il a une petite boule ici, une petite boule là, c'est sûr que c'est lui l'Antéchrist. C'est plus subtil que ça, un peu plus subtil. Un petit peu plus subtil. On n'arrive pas à celui-là, cet esprit-là, on n'arrive pas à le... Ah, Jésus, oui, il sera dans la bouche de l'Antéchrist, l'Écriture, oui, en long, en large, en travers, en profondeur, en, comme on dit aujourd'hui, en 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D même, cette dimension. Je crois qu'on parle en ce moment de la profonde, dans la lumière qui pénètre maintenant. Vous voyez, quand on est en 3D, ça veut dire on est en relief, c'est ça? 3D, c'est relief, c'est ça? Alors 4D, maintenant on fait des choses en 5D. C'est incroyable, hein? Quand vous faites apparaître un truc en relief, en 3D, c'est déjà pas mal de lumière. Quand vous lisez la Sainte Écriture, pour repérer dans la Sainte Écriture, des choses vivantes en 5 dimensions. Voilà ce dont Saint Albert le Grand dit que l'Antéchrist sera capable. Il comprendra bien les Écritures, vous voyez, il discute les disciples avec les scribes, avec les spécialistes, la révélation, de la sagesse, la subtilité de l'Antéchrist. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit, mais frère, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous avez déjà lu la deuxième Épître aux Thessaloniciens, on peut vous donner une Bible si vous voulez. Lisez la deuxième épître aux Thessaloniciens. Saint-Esprit dit à travers Saint-Paul, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne le veux pas. C'est le Seigneur lui-même qui nous a enseigné ce qui devait se produire. Nous ne mourrons pas tous. Vous vous rappelez de ce passage?
Oui.
Ah, bon, tant bien, vous allez un petit peu nous dire la suite. Nous ne mourrons pas tous. Comme le Seigneur nous l'a enseigné, il faut d'abord que celui qui empêche l'Antéchrist de s'établir soit écarté. Et puis, Il y aura une première résurrection. Le juste se relèveront. Pas tout le monde. Quelques justes ressusciteront. Pas tout le monde. Quelques justes vont ressusciter d'entre les morts. Les tombeaux vont s'ouvrir. Ils vont se retrouver là. Ce sera beau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Les justes qui vont ressusciter. Voilà, ça risque d'être chouette. Il y en a déjà qui sont déjà. Voilà. Voilà. Vont ressusciter. C'est extraordinaire quand on voit par exemple certaines reliques de saints, comme c'est des reliques, il y a des reliques par exemple de Saint Antoine, vous intéresse, de beaucoup de saints, mais il y a des reliques qui sont dispersées dans plus de 20 000 endroits, un petit bout de. Tiens, ça c'est une relique de. Il y a des certains saints qui sont répandus dans plus de 100 000 endroits, dans 100 000 églises au moins, et hop, un seul coup. Ils ne seront plus dans les reliquaires. Ils vont s'assembler. Le génome, l'intérieur, hop, hop, ils seront là. Ah, bonjour Saint Jean Chrysostome. Bonjour, ça c'est bien. C'est... Les justes qui vont ressusciter, ça veut dire ceux qui sont morts. Et quand ils étaient morts, il se dit dans la septième demeure accomplie, c'est ça les justes. Hein? Et c'est pas tous les saints canonisés. Il y a plein de saints qui sont canonisés, qui n'étaient pas à la septième demeure quand ils se sont endormis. Ils sont passés au purgatoire. Hein? Même s'ils sont passés qu'une demi-heure au purgatoire, ils sont passés au purgatoire. Les justes qui étaient à la septième demeure accomplie, il doit y en avoir, probablement, un certain nombre. Alors bref, des justes vont ressusciter. Déjà, on a déjà vécu ça. Mais on n'en parle pas, c'est marrant, hein. Ça n'a pas frappé les gens à l'époque. Pourtant, c'était frappant, mais c'est bon. C'est bizarre quand même ça. Ça n'a pas frappé. Mais attendez, quand Jésus est mort ou quand il est ressuscité, il y a eu deux fois où il y a plein de tombeaux qui se sont ouverts. Et les cadavres sont devenus vivants. Et puis ils sont sortis du tombeau et ils ont parcouru les rues de Jérusalem quand même. Pour dire, mais dis donc, et puis ils ont parlé, ils ont crié, tout ça. Et ben c'est marrant, hein. Ça les a pas frappés, hein. On voit pas dans les actes des apôtres, tout ça. Ils parlent pas de ça. Ça prouve que les tremblements de terre qu'il y a eu pour la mort et les tremblements de terre et les phénomènes qu'il y a eu pour la résurrection de Jésus ont impressionné beaucoup plus que ces résurrections de mort, hein. Pourtant, est-ce qu'on a entendu parler dans toute l'histoire de l'humanité ce phénomène qu'il y a eu des morts en nombre, qui sont ressuscités d'entre les morts? Ce qui prouve bien que la résurrection du Seigneur, les Juifs, le nombre de Yehoudim de Jérusalem qui ont vu Jésus ressusciter d'entre les morts, c'est énorme. C'est Anne-Catherine Emmerich qui dit justement, qui explique ça un petit peu. Comment ça se passait? Ils étaient tellement terrorisés que vite, ils mettaient des rideaux, le rideau s'était déchiré, du coup, eux, ils ont mis des tas de rideaux dans leur tête, pour surtout pas voir ça. Ils disaient, oh là là, ils ont oublié qu'il y avait quelques morts qui ressuscitaient, qui étaient morts ressuscités, et puis qui avaient crié dans les rues de Jérusalem. La résurrection de Jésus, vous savez, c'était quand même la surdité, l'aveuglement, c'est quelque chose. Hein. Ça va loin, hein. Mais c'est un signe, c'est vrai qu'on ne parle pas historiquement que des justes sont ressuscités. On n'en parle même pas. Ça prouve bien qu'il s'est passé quelque chose de très, 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 très. Bon, mais ce qui se passe, ce qui est sûr, c'est que Saint Paul nous dit, frère, il y a une chose que je ne veux pas que vous ignoriez. Au jour du Seigneur, nous, les vivants, tous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Vous connaissiez ce passage?
Non.
Ah, il me semblait que vous le connaissiez bien pourtant. Nous ne mourrons pas tous. Il faut d'abord que les justes ressuscitent. C'est dans l'Apocalypse, si vous avez noté avec un stylo, l'Apocalypse. Il va y avoir la première résurrection d'abord, puis après la seconde résurrection, puis la résurrection finale.
Il n'y a plus de mort, ils ressuscitent et ils ne meurent plus.
Non, pas tout le monde, quelques-uns seulement. Mais quand les justes vont ressusciter, ils vont ressusciter.
Ils ne meurent plus.
Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Nous, les vivants, nous ne mourrons pas. Mais il faut d'abord que ressuscitent les justes, certes. Et une fois que la première résurrection, alors, une fois que les justes sont ressuscités, nous serons emportés avec eux, nous les vivants, qui ne serons pas encore morts, nous serons emportés avec eux, à travers l'atmosphère en bilocation. Vous voyez la bilocation? Pourquoi il faut s'entraîner? Pour la messe, pour aller à la messe, enfin, pour les noces de l'agneau. La dernière messe du monde. Et là, il y aura tout ce dont parle Saint Pierre, donc c'est la fameuse sixième demeure de l'Église. C'est la purification par le feu. Et quel feu, quel feu, quel feu extraordinaire qui va purifier tout l'univers, toute la matière, et tous ceux qui sont restés, puisque c'est pas tous qui seront emportés. Un sera pris, l'autre laissé. Quand Jésus dit un sera pris, l'autre laissé, ça veut bien dire une chose, ça veut bien dire que ce ne sera pas une exception, ce ne sera pas un sur un million qui sera emporté à travers les airs. Non, ce sera quand même beaucoup, hein, beaucoup, 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 hein. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi qui restent en bas, hein, parce que l'union transformante, le septième demeure du mariage spirituel accompli et surabondant, la plénitude reçue, il y en a qui vont traîner les pieds. Mais je savais bien qu'il fallait faire ça, mais enfin, on va attendre encore 1 ou 200. C'est vrai, j'ai des travaux à faire. Hein. Je connais l'urgence, mais enfin, j'ai des trucs à faire. C'est mon mari qui me l'a demandé. Mes enfants l'exigent, ils disent, ils ont besoin d'avoir une résidence secondaire et puis de pouvoir aller à Cabourg. Donc je ne fais pas oraison, vous comprenez? Non, je ne fais pas oraison, c'est pas... L'esprit du monde, c'est incroyable, la surdité, l'aveuglement. Le mutisme, c'est le verbe ne s'exprime plus. Il n'y a pas de transverbération. Le mutisme de cette époque, de la note, c'est pas de transverbération, s'il vous plaît, pas de transverbération. Le verbe ne s'exprime plus. Alors, dire Jésus, Jésus, ouais, on croit Jésus, il faut qu'il y ait Jésus, Jésus, Jésus. Ah, ça marche. Esprit de mutisme, de surdité, d'aveuglement. Il faut repérer cet esprit-là. C'est qui le père, alors, de l'enfant? Il sera emporté à travers les airs, et puis voilà, et puis... Donc les morts ressuscitent. Moi je crois, vous savez, ce qui me semble pressentir, c'est que... Il me semble pressentir que la cinquième saut de l'Apocalypse va ouvrir une porte dans le temps, et dans le temps de l'Église. Et le temps de l'Église, c'est le temps de Jésus. Assis à la droite du Père, ben, à travers l'Eucharistie, va engendrer des torrents de sagesse, de suavité, de rédemption pour tous les enfants qui sont morts et qui sont encore dans le temps. Parce qu'à cause du péché originel, j'allais dire grâce au péché originel, ils sont encore dans le temps, ils ne sont pas au ciel. Et donc, eux, ils vont avoir le temps, je suppose. Dans le temps qui est le leur et de l'Église, de la première parousie, enfin de la trompette, ils vont avoir le temps du coup de faire oraison, puisque nous, il faut qu'on fasse des travaux. Il faut bien qu'on fasse du cidre quand même. Alors, eux, ils vont arriver à la septième demeure, l'union transformante, les enfants. Ça fait quand même beaucoup de gens déjà. Les morts vont ressusciter. Et ces enfants, bien sûr, font partie, tout le monde le sait. En plus, c'est révélé par Saint Jean dans l'Apocalypse. Ces enfants-là, donc ressuscités, sont emportés vers les noces de l'agneau à travers les airs, après leur résurrection. Sur la terre, hein, ils sont encore dans le temps. Vrai ou pas vrai? C'est une imagination du Père Patrick, ça? Peut-être. Peut-être. Parce que je ne suis pas un docteur de l'Église, et puis en plus, c'est pas dogmatique. Donc c'est une... pour l'instant. Mais je peux dire, comme j'aime bien, moi j'ai connu Marthe. Je veux dire que Marthe Robin était géniale. Ça, elle, transverbération, ça s'entendait dans la voix. Hein. Transverbération, le verbe était là. Le verbe de Dieu, hein. Pas Jésus, hein, c'est le verbe de Dieu. Et puis ça s'entendait. Hein. Elle avait une manière, c'est inoubliable ça. Quand elle faisait. Une fraîcheur incroyable, c'est inoubliable. Mais c'est évident, c'est évident. Donc c'est pas une pensée, c'est pas une opinion, c'est évident, mais c'est évident. Donc on a le droit d'avoir des évidences, ça, c'est pas interdit. C'est pas parce que c'est pas dogmatique. C'est pas interdit d'avoir des évidences. C'est évident, enfin. Donc voilà, ils sont emportés. De toute façon, la deuxième épître de Thessaloniciens, c'est pas un secret. Puisque c'est le seul point sur lequel le Nouveau Testament dit « Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance sur un point, frères et sœurs. » La seule chose sur laquelle l'apôtre veut pas qu'on soit ignorant. Alors c'est le seul texte que tous les chrétiens ne connaissent pas. Pourtant c'est dans le Nouveau Testament. C'est un texte clé. Nous ne mourrons pas tous. Mais il faut d'abord que les justes ressuscitent. Avec eux nous sommes emportés à travers les airs. Alors avec les enfants, il y aura tous ceux qui sont morts et qui sont dans l'état de mort, par exemple Sainte Bernadette. Ça, on est presque sûr que Sainte Bernadette, puisque son corps spirituel était resté vivant 30 ans après, il était encore vivant son corps. Mais ça veut dire qu'elle était dans le corps spirituel accompli, hein, le sang circulait encore. Hein. Ça, moi je crois pouvoir vous dire que Sainte Bernadette, c'est sûr, ça, elle sera. Elle fait partie des justes qui la suscitent. Ça, c'est sur Sainte Bernadette, ça c'est. Alors, le Seigneur a donné quand même un signe clair, très clair là-dessus. Bon, ok, je me trompe peut-être, j'en sais rien, le Seigneur le sait, moi, j'en sais rien. Le Seigneur, on ne sait pas tout. L'Antéchrist saura presque tout, hein. L'Antéchrist saura presque tout. Et Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, quand je lisais les fins dernières, je disais, ah tiens, Saint-Thérèse, là, elle devait dire, ouh, ah. C'est Saint Seigneur, l'ange, et puis le ciel avait expliqué à Saint Albert le Grand, docteur de l'Église, que l'Antéchrist serait celui qui, de toute l'histoire du christianisme, en fait, était baptisé, tout ça, connaîtrait le mieux les profondeurs et le secret de tous les passages de toute la Sainte Écriture, de toute la Révélation. Saint Thomas d'Aquin, à côté de l'Antéchrist, sera une blague. Hein. Extraordinaire quand même ça. Mais l'Antéchrist n'aura pas atteint la sainteté accomplie de la plénitude reçue de la septième demeure de l'union transformante. Ça. Alors pour que vous ayez l'esprit assez subtil pour repérer ceux qui sont arrivés dans la plénitude reçue de l'accomplissement de la septième demeure chez les gens, après que le Fils de l'homme soit arrivé ici, et il est prophète à Caravandal, c'est pas. Et Enoch, je sais pas où. C'est une subtilité surnaturelle, hein, que l'Antéchrist l'aura eu, hein, cette subtilité, parce qu'il y a une. Donc vous voyez bien que le péché suprême, ce ne sera pas de pas avoir assez de prière, c'est que notre prière ne sera pas suffisamment brûlante pour nous mettre dans l'état de la plénitude reçue et accomplie de la septième demeure non transformante. Pour ça que c'est triste de voir des gens qui disent « Moi, j'ai fait oraison, hein, pendant une semaine, j'ai pu arriver à faire oraison un quart d'heure par jour. Ah, Seigneur, tu peux me remercier, hein. » J'ai fait un effort quand même. Hein. Bien, je ne suis pas comme les autres qui font pas raison. Hein. Ils sont encore dans leur dévotion. Moi, je fais raison. Quiétude. Comportement. Cinquième demeure. Oui, mais c'est septième demeure qu'il faut, petit. De toute façon, je ne vois pas très bien la différence. Hein. Eh bien, tu t'endors le soir, on demande au Saint-Esprit de te montrer la différence, ok? Dis-moi, je fais raison, puis c'est tout. Hein. Je ne vois pas la différence entre la cinquième et la sixième demeure. Hein. Ah, tu vois pas la différence? Est-ce que tu t'es endormi un seul soir en disant « je voudrais voir la différence » Jamais. Ah bon, bah, très bien. Bienvenue chez l'Antéchrist. Est-ce que est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous... C'est subtil, oui. On n'arrive même pas à prononcer le mot subtilité tellement ça nous est éloigné. Alors Sainte Thérèse d'Enfant Jésus disait ça en disant « Oh là là, oh là là, oh là là, vaut mieux être... » On a plus de chance si on est comme les enfants, hein, pour arriver à la septième demeure accomplie. Plus de chance pour ça, l'esprit d'enfance, miséricorde, la paternité, Dieu me crée. Raccourci, vite. Je trouve ça génial. Saint Jean, il fait partie des justes aussi, hein. Saint Jean, il fait partie des justes. Il était à la septième demeure accomplie, ça c'est sûr. Saint Jean fait partie des justes, ça c'est sûr. Ça c'est certain, ça c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Je crois. Ah ça oui. Ça je crois. Alors voilà, elles seront portées. Ces justes vont ressusciter. Et nous serons là, vivants. On n'aura pas fait encore célébrer les funérailles. On est encore là, nous les vivants, nous serons encore vivants. Eh ben, hop, emporter à travers les airs, parce que Jésus va venir en courant comme ça, en volant, en volant à travers les airs. À un moment donné, donc on voit bien mais tous ceux qui font raison, Élie, hein, le prophète, Enoch, tous ceux qui sont dans l'innocence surabondante dans la septième demeure de l'union transformante, Enoch, bon, c'est les deux ensemble, dans l'au-delà de l'unité des deux, quand tous ceux qui vivront ça seront les vivants. Et ce qui est la grâce qui sera donnée après à la parousie, donc du cinquième saut de l'Apocalypse, c'est, enfin celle qu'on va avoir dans quelques semaines, là, tout de suite, là. Là, c'est... Ça, c'est le nouveau Saint-Joseph de l'humanité, voyez. Ceux qui vivront de ça... Enfin, j'espère que... J'espère que tu dis, mais moi, Seigneur, je veux faire partie de ça. Je dis oui, c'est pas je veux, c'est je dis oui. Je dis oui parce que dans la cinquième, sixième et septième demeure, c'est pas moi qui veux, c'est un désir. Le désir, ça oui. Je m'endors avec le désir. Mais c'est Dieu qui prend, qui m'assume, qui me prend en lui, qui passe, qui fait et qui me met dans la cinquième, sixième, septième demeure. La cinquième, sixième demeure, c'est après la métamorphose. C'est après le raccourci. Ah, je suis pas au courant de ce que c'est que le raccourci, moi. Et ben, si tu sais pas l'essentiel, et ben, écoute, retourne à la télé. Hein. Fais ton Facebook et on n'en parle plus. Allez, ça va avoir ce sens. Là, c'est qui le père, alors? De l'enfant. Et...
Les justes.
Ah, oui, c'est pas. sais pas, j'ai pas la réponse, je vous assure, je vous pose la question, je pose la question. Si, j'en sais rien, mais j'en sais rien. Pour moi, c'est je sais pas, j'en sais rien.
Celui qui demande.
C'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas dans le temps, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas dans l'église d'aujourd'hui. On est encore dans l'église de Sardes, vous voyez? On est encore dans l'église de Sardes, là. Éphèse, envie de Saint-Jean, de Sardes, du pape, les trois blancheurs, voilà. On est encore dans la troisième demeure, du troisième église, quatrième, troisième saut, quatrième saut, peut-être. Peut-être. C'est ce qu'on désire être après la parousie. Ce flux, ce reflux vivant dans le corps spirituel venu d'en haut. Hein. Voilà. Et la royauté des petits rois fraternels de l'univers encore vivants, là, qui sont là, sur la terre. Il y a ceux qui sont proches de parce qu'ils voient ce que c'est que le méchant. Il le voit, ce que c'est que ce méchant. Mais je sais pas, on voit le père, il voit, il sait que c'est son enfant qui est pris par le méchant. Les autres, ils discutent encore. Il le sait depuis longtemps. C'est l'humanité, c'est ce qu'on appelle quelquefois le grand monarque. Est-ce que c'est pas un symbole? Il aura la sainteté, comme dit, je crois, Père Amargent dit bien ça, Saint Thérèse devait lire ça. C'est le Saint Joseph de l'époque de l'Antéchrist. À l'époque de l'Antéchrist, il y aura un espèce de roi du monde, d'Israël, de Dieu, du Christ, du Messie. Il aura la même sainteté que Saint Joseph. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est pas un symbole? Est-ce que c'est pas un nom collectif, c'est pas, est-ce que c'est, on dit bien les petits rois fraternels de l'univers. J'aime bien penser à ça. J'aime bien penser à ça. Quand j'avais l'âge de 16-17 ans, je me rappelle, j'avais lu ce passage de l'Épître aux Thessaloniciens. Et puis en plus, c'était commenté par un pasteur, David Wilkerson. Pasteur David Wilkerson. C'est lui qui avait écrit plus tard la croix et le poignard. Il a expliqué la deuxième épître aux Thessaloniciens. Oh, je me suis dit, mais c'est génial, la deuxième épître aux Thessaloniciens. Jamais le curé nous a raconté ça à la paroisse. Et le soir, je m'étais endormi, je me suis dit, moi je veux en être là, ce truc-là, moi je veux pas rester là, je veux t'emporter à travers les airs, moi. Et puis ce jour-là, je veux t'emporter à travers les airs. Genre, maintenant, j'ai 50 ans après, je suis là devant vous. Pendant 50 ans, ça a bossé. Ça a bossé dans le truc. Je suis pas en train d'essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie. Cet esprit, peut-être, il dit, Seigneur, il pourrait peut-être. Vous voyez, le désir, c'est le désir. Ça, oui, ça, le désir, ça, c'est sûr. Humainement, déjà. Surnaturellement, j'en sais rien. Le désir, mais il faut que ce soit sous le sceau du Saint-Esprit, et dans la cinquième, sixième, septième demeure, pour que ce désir soit surnaturel et eschatologique, quand même. C'est mieux. C'est mieux que le désir pentecôtiste. Dans les bas quartiers de New York. C'est sûr. Donc à l'époque, donc Saint Thérèse, elle disait ça dans les fins dernières. Elle a dit, moi aussi je veux, hein, puisque elle est docteur de l'Église du désir surnaturel de l'enfance. Donc tu peux pas faire. Elle dit, mais moi, oh. Et Marthe se disait à propos de Thérèse, la coquine. Elle est quand même partie avant. Elle m'a laissé le travail à faire. La coquine. Parce qu'elle avait compris autre chose, cette Thérèse. Elle pouvait s'endormir et se réveiller. Plus facile. C'est bien, cette Thérèse, elle est chouette, elle est très sympa. Elle choisit toujours ce qui est le plus facile. et le mieux. Offerte, quoi, elle a fait cette offrande à la miséricorde. C'est ça que ça voulait dire pour elle. Hein? C'était par rapport à ça. Hein? Alors, donc, à la fin, il y aura des saints qui, voilà, qui seront des justes et qui seront les pères de l'enfance universelle de l'humanité après le cinquième saut d'Apocalypse, et qui l'auront toujours été d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que Saint Joseph, c'était quand même le principe de l'Immaculée Conception au bout de 19 ans de sa vie, de transformation surnaturelle, hein, dans la septième demeure. Ah. Voilà, donc c'est quand même, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Hein, on commence à comprendre, et grâce à Saint Joseph, on commence à comprendre. Qui c'est ce père-là? C'est qui ces gens-là? Bien sûr que Saint Joseph, si Saint Jean se balade, Saint Joseph aussi, il n'est pas là-haut, à 800 milliards de kilomètres. Ne hein. Vous inquiétez pas, il est ressuscité. Donnez-lui une burette d'eau. Non, c'est pour mettre dans sa main. Ouvre mes mains, Seigneur.
Bon, personne n'a trouvé le père.
Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frère. Nous qui serons vivants.
Septembre, l'assemblée, personne n'a trouvé le père.
Nous ne mourrons pas tous. Il faut d'abord que ceux qui sont endormis se relèvent. C'est le mot qu'il emploie dans l'épître de Saint-Denis. Il faut que ceux qui sont endormis, il faut d'abord que ceux qui sont endormis ressuscitent.
C'est pas parce qu'on est ressuscité qu'on peut aussi dormir.
Non, c'est trop subtil. Il y a des subtilités qui ne relèvent pas de... Mais il faut que nous puissions sentir, participer, être un avec Saint Joseph, vous comprenez? Dans la septième demeure de l'union transformante, après l'ouverture du cinquième saut d'Apocalypse, mais dès maintenant, puisque il a toujours été le père de l'humanité méchamisée. Comprenez ça. Les catholiques sont des âmes de désir, c'est pas des âmes protestantes. Les protestants, ils disent, nous, on sait rien, on peut rien comprendre de toute façon, puisque notre intelligence, on est tellement péché, on a besoin de Jésus, il nous sauve par son sang. Voilà, donc point barre, n'essayez pas de comprendre, la doctrine, ça sert à rien, puisque de toute façon, le mystère, on ne peut pas le pénétrer ni le voir. Est-ce qu'il n'y a pas une invasion de cette hérésie mortelle dans l'Église catholique? Alors il ne reste plus pour comprendre que quelques messages donnés par des mysticaux et des charismaticaux dingos de tous les côtés. Mais le Saint-Esprit dans la septième demeure de l'Union transcendante qui nous fait vivre, être, comprendre, et que c'est évident. Et voir. La vie contemplative est nécessaire. C'est une nécessité du Saint-Père, c'est une nécessité de l'Immaculée Conception, c'est une nécessité eucharistique. 222. C'est une nécessité. Et il faut vraiment. Sinon, où est-ce que on pose le pied sur le 666 de l'Antichrist pour ouvrir la terre et le faire disparaître dans l'Hadès? Comment ça? Et c'est pour ça qu'on est des âmes de désir. C'est ce désir. Là, le attention, le désir est très proche, surnaturel, hein. Surnaturel, désir surnaturel. Quand vous êtes emporté par Dieu dans l'union transformante, il met en vous un désir venu du ciel, en vous, sur la terre. C'est ça, ce désir-là, je parle de désir, celui qui a dans l'intérêt de l'enfant Jésus. Hein. Voilà, c'est ce désir-là, l'esprit d'intelligence. Quand l'esprit d'intelligence s'associe à cette espèce de voile qui fait qu'il est presque associé à la venue du paraclet. C'est ce qu'on appelle ça, voilà, ça c'est ce désir-là. Hein. Et docteur de l'Église, pour nous avoir expliqué ça quand même, hein. Comment on fait pour y être, pour être emporté, revenir. Il y en a une que j'aime bien aussi, puisqu'elle était à la basilique, là. C'est Saint Edelstein, elle explique bien ça. Sœur Marie-Bénédicte de la Croix. Hitler était tellement mécontent de savoir que quelqu'un avait eu cette lumière-là, qu'il l'a brûlée au feu crématoire à Auschwitz. Il y en a un autre qui dit qu'il n'aimait pas tellement Hitler. Celui-là, parce qu'il avait vu l'Immaculée Conception aussi, pareil, dans Saint-Joseph, il l'a vu. Il l'a brûlé au feu crématoire à Auschwitz aussi, pareil, après l'avoir affamé, alors qu'il était dans la lumière. Vous savez, ouais, le démon, il repère bien, hein, où sont les catholiques. Alors, c'est qui le Père? Donc, voyez, le Père, vous le sentez bien. On peut dire, bien sûr, on peut répondre c'est Saint-Joseph, mais... Saint-Joseph sur vœu, c'est le corps mystique vivant de Saint-Joseph sur la terre. Je crois que c'est ce qu'on appelle le règne du Sacré-Cœur, c'est ça, le règne du Sacré-Cœur. Le monde nouveau, le règne du Sacré-Cœur, c'est ça. C'est le fameux secret de Lourdes. Et alors voilà, eh bien, on n'arrive pas à briser le méchant. On n'arrive pas à briser ce méchant, même après la parousie du Seigneur, même après cette effusion universelle des subtilités surnaturelles données à tous. Mais pas forcément à tous jusqu'à la septième demeure de l'union transformante. Hein? Mais voyez, saint Thomas d'Aquin dit une chose. La doctrine, c'est génial, hein? La doctrine de l'Église catholique, c'est super. Et saint Thomas d'Aquin, c'est quand même le docteur minimum. Parce que les papes ont dit minimum, le docteur principal, quoi. Donc on commence par la doctrine, commence. Voilà. Et d'ailleurs, il a fait la somme de saint Thomas pour les débutants. Donc c'est normal, un débutant, il commence par lire tout saint Thomas d'Aquin dans la somme. Voilà. C'est le minimum, quoi. Ben, sinon, faites votre Facebook, hein, puis voilà. Sinon, si ça ne vous intéresse pas. Voilà. Saint Thomas d'Aquin, il dit une chose que j'aime bien. Il dit ce qu'on aura désiré dans la grâce surnaturelle sur la terre. Par exemple, on aura désiré énormément surnaturellement en Dieu, dans le Christ Jésus notre Seigneur. On aura désiré surnaturellement. Il y a des contemplatifs qui peuvent comprendre ça dans la vie contemplative, dans notre vie qu'on aura désiré très très fort. D'ailleurs, très très fort, savoir comment Jésus s'éprouvait lui-même dans sa nature de Verbe de Dieu unie à l'aspiration passive de sa future immolation. Est-ce qu'il en éprouve dans l'Eucharistie au moment du sixième saut de l'Apocalypse? J'aimerais bien voir ça, vivre ça, contempler ça, être englouti là-dedans. Ah, parce que si tu as désiré ça sur la terre, au ciel, tu le verras, mais au centuple, des milliards de fois, avec tous les mondes créés à partir de là, qui ne seraient pas créés si tu n'avais pas fait ce désir. Mais celui qui n'aura pas, absolument pas désiré savoir ce qui se passe dans le mystère surnaturel, par exemple, de l'Immaculée Conception, communion avec le Christ, ça ne m'intéresse pas. Moi, je crois que l'Immaculée Conception, et puis c'est tout. Donc, un désir, et ben du coup, ben, tu ne le verras pas. Il y a beaucoup de demeures au ciel, de la vision béatifique. On aura au ciel, à l'état, quasi à créer et surmultiplié dans la puissance de la création de mondes nouveaux, surnaturels et extraordinaires, uniquement ce qu'on aura désiré sur la terre. Il en est de même, évidemment, il en est de même pour ceux qui sont dans le quatrième sceau de l'Apocalypse et qui désirent, dans le cinquième sceau, surnaturellement vivre ça. Si tu ne l'as pas désiré dans le quatrième sceau, tu n'auras rien dans le cinquième sceau. Vous comprenez maintenant ? Il y a plein de gens qui disent, oh, attends, l'avertissement c'est bientôt, attendons un peu. Moi j'aurais construit ma baraque, puis le cinquième sceau arrive, trop tard. Tu assures la sécurité, quoi. La sécurité du... La sécurité, mon Dieu. Il faut faire raison, la vie contemplative est nécessaire. Alors, on a ce désir, surnaturellement, on le demande, c'est le Seigneur qui nous le crée en nous, ce désir, puisqu'il vient du monde céleste de l'a créé, qu'il crée en nous par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le corps spirituel venu d'en haut, et voilà, et dans la nuit totale et pure de la foi, mais quand même, tout de même, c'est pas uniquement de la matière, le corps spirituel venu d'en haut, quand même, c'est habité par un désir primordial, venu du Père. Alors il nous fait voir ces choses-là, c'est formidable, je trouve, moi, ça. Je dis, qu'est-ce qu'elles doivent s'embêter, ces carmélites, derrière leur grille de leur couvent ? Ça s'embête, les carmélites, derrière les grilles de leur couvent ? Mais, tu sais, c'est pas seulement... Être carmélite, c'est pas seulement être derrière les grilles d'un couvent. Hein. Qu'est-ce qu'on doit s'embêter quand on est au ciel ? Une fois qu'on y est, c'est fini. Plus de films, plus de télé. On est là, il y a Dieu. Qu'est-ce qu'on doit s'embêter au ciel ? J'ai pas envie d'aller au ciel. Je trouve ça plus amusant de vivre. Donc ça veut dire qu'au ciel, on vit pas, quoi. D'accord. On n'a pas le désir du ciel, c'est marrant, hein. Seule la vie contemplative nous donne le désir du ciel. Seule la vie contemplative. Aucun message, même celui de Dossulé, ne nous donne le désir du ciel. Aucun. Aucun. C'est pas vrai ? Si quelqu'un parmi vous a des messages, par exemple moi j'ai des messages, eh ben, dans les messages, je n'ai aucun désir du ciel. C'est vrai ? Vous avez des charismes, vous avez pu obtenir la guérison d'aveugle, de délivrance, etc. Dans ces charismes, l'exercice des charismes, vous avez fait des milliers, des centaines de milliers de guérisons physiques, et même de morales, psychologiques. Est-ce que dans chaque cet exercice charismatique extraordinaire où Jésus est intervenu à travers vous, parce que vous l'avez laissé librement s'exprimer à travers vous par votre foi, est-ce que vous avez là, dans cet exercice apostolique, charismatique, extraordinairement limpide, où vous êtes disponible pour l'Esprit-Saint, est-ce que vous avez eu le désir du ciel là-dedans ? Pas le moins du monde. Pas une seule fois. Jésus réclame la foi. La foi est contemplative, par essence, par nécessité, par principe, par accomplissement. La foi, c'est de la lumière surnaturelle qui saisit toutes les intelligences humaines à travers notre intelligence et elle pénètre, elle est conjointe au dernier voile qui nous sépare de la lumière née de la lumière dans la vision face à face du Verbe de Dieu qui est dans le Père pour le voir et y disparaître. Elle est là, la lumière surnaturelle de la foi. Elle voit, à travers le voile, sous le souffle du paraclet, elle la voit, cette lumière née de la lumière, dans la lumière de gloire. Elle y pénètre, elle en est transformée, il n'y a plus que Dieu. Et à travers Dieu, je vois toutes choses. Et pourtant, je suis encore sur la terre. Ça, c'est la vie contemplative. Et il dit, mais moi j'ai la foi. J'y crois, moi j'y vais à la messe. Bon, une fois que je suis à la messe, je dors un peu, mais j'y crois. J'y crois. Mais, non, mais la foi, c'est contemplatif. La foi, vous voyez, j'aimais bien le père. Quand quelqu'un dit c'est la foi, c'est une lumière surnaturelle qui nous envahit, se raconte. Et il n'y a plus que le verre. Il n'y a plus que le Verbe et Dieu en nous. Et on voit. L'acte foi fait que je vois, je touche. Le Verbe est Dieu. Il n'y a plus que ça. Et je le touche, je le vois, je l'assimile et j'en vis. Voilà, ça y est, j'ai fait un acte de foi. Nous nous consacrons pour que la foi nous illumine et brûle tout dans la soif. Cette phrase que je viens de vous dire, pourquoi est-ce que je peux vous le dire? Parce que je l'ai entendue dans la bouche du Père Marido, peut-être des milliers de fois, à cet ensemble de phrases. C'est très simple. La vie contemplative, ce que c'est qu'un acte de foi. Et nous nous consacrons. Jésus réclame la foi. Et la foi est contemplative surnaturellement par essence, par nécessité, par principe et par accomplissement. C'est la foi qui justifie l'épître aux Romains. Alors, il y a une chose que je ne veux pas que vous ignoriez quand même. Frère, c'est le Seigneur qui nous l'a enseigné. Nous ne mourrons pas tous. Il faut d'abord que ceux qui sont endormis, qui sont juste, se relèvent, ressuscitent. Vous voyez, l'évangile dit donc que l'enfant ressuscite. C'est génial. Et c'est le Père, le Père de l'enfant qui présente à Jésus. C'est le seul qui obtient ça. Et Jésus soupire, oui, mais c'est la foi que je veux. Alors, et le Père, du coup, vous avez vu? Aussitôt, le Père de l'enfant crie. Je crois. Viens au secours. Mon manque de foi. Lui, il a la foi. Oui. Donc c'est forcément un contemplatif. Et du coup, Jésus obtient la fin de l'Antéchrist dans le temps de l'histoire des hommes et de la création. Hein? Mais si je n'ai pas le désir surnaturel de cette foi-là, avant l'avertissement, je ne l'aurai pas après, je ferai partie. Est-ce que vous comprenez? Alors Marthe disait oui.
Oui.
Quand je l'entends dire oui.
En bondissant.
C'est génial, non? On se reposera la question une autre fois parce que là, on s'est juste posé la question, donc on n'a pas le temps de donner la réponse, d'accord? Yeah.